ma communication porte sur le reenactment dans les pratiques artistiques et muséales de l'art contemporain. Et en fait, deux préoccupations la sous-tendent. La première est la dimension politique de ces pratiques. Donc, ce que j'ai appelé et que je préciserai le reenactment comme renégociation des récits historiques et aussi des récits de l'histoire de l'art. Et la deuxième est une dimension esthétique, mais qui a des incidences méthodologiques et qui est liée à l'intrication extrêmement serrée du vivant et du médiatisé dans les pratiques de reenactment de l'art contemporain. Donc j'expliquerai ce que j'entends par tout cela. Donc, depuis le début des années 2000, on observe dans les pratiques et les institutions de l'art contemporain un fort intérêt pour le reenactment. Il a envahi les mondes de l'art sous des formes qui conjuguent le vivant et le médiatiser, et dans une perspective revendiquée de rejouer l'histoire et l'histoire de l'art pour interroger ses processus de fabrication, ses généalogies et le pouvoir de ses représentations. Plusieurs expositions d'envergure ont été organisées au cours des deux dernières décennies. Alors, en guise de préambule à ma réflexion, j'en évoquerai très rapidement cinq. Je me contenterai de l'argumentaire des commissaires qui les ont organisées. Choisies parmi celles qui ont contribué à élaborer une réflexion critique sur les phénomènes et à définir les contours d'un corpus qu'on peut désormais considérer comme un peu canonique. Elles me permettront de dégager et de préciser les orientations de ma communication. Donc, A Little Bit of History Repeated, en 2001, de jeunes artistes sont invités à reconstituer des performances importantes des années 60 et 70 selon diverses modalités qui problématisent le rapport de l'œuvre à l'œuvre source. Ça peut être des reconstitutions basées sur la documentation, d'autres sur les souvenirs, l'élaboration d'une interprétation en collaboration avec l'auteur de la performance source, d'origine, ou encore des créations librement inspirées du passé. Cette exposition prenait une forme événementielle, 3 jours de performance suivis d'une discussion et d'un atelier avec l'artiste Marina Abramovic. A Short History of Performance, Part 1. Cette exposition présente durant 6 jours des reconstitutions live de performances des années 60 et 70, suivies d'entretiens publics avec les artistes sur cette expérience de reconstitution. La proposition a une visée historiographique, contribuer à une histoire de l'art de la performance, mais aussi patrimoniale, c'est-à-dire transmettre des œuvres dans des formes vivantes et non pas documentaires comme on le faisait jusqu'alors. Les œuvres choisies avaient à l'origine été performées à plusieurs reprises dans des contextes différents, cette itération justifiant ce parti pris curatorial atypique pour l'époque. Life Once More, Forms of Reenactment in Contemporary Art, l'exposition présente aussi bien des reenactments d'événements historiques que des reprises d'œuvres performatives du passé. Elle interroge les liens entre les reenactments, les images de référence qui sont utilisées pour les produire et les images qu'ils génèrent. Les artistes explorent le rôle des médias dans les entreprises de reenactment, notamment l'industrie cinématographique et les univers virtuels. History will repeat itself. Cette exposition s'attache au reenactment d'événements historiques uniquement. Elle interroge les impacts des nouveaux régimes de l'image sur les représentations historiques. L'omniprésence des images, leur reproductibilité potentiellement infinie grâce aux technologies numériques, le régime du simulacre qui les sous-tendent, génère un sentiment de doute quant à leur statut et à leur authenticité. Et l'argument des commissaires est le suivant: le reenactment, en proposant un engagement corporel dans la reconstitution des événements du passé, permettrait de mieux comprendre la manière dont les images sont construites et signifient. Et ma dernière exposition, Moments, A History of Performance in 10 Acts, Alors, cette exposition est consacrée à 10 femmes artistes qui ont marqué la performance et la postmoderne danse des années 1960-70. Ces artistes étaient invités à choisir parmi leurs archives des documents relatifs à une ou plusieurs de leurs œuvres, à les mettre en exposition et à les offrir à la libre interprétation d'un groupe d'artistes plus jeunes, danseurs pour la plupart, regroupés autour du chorégraphe Boris Charmat. Ce choix curatorial atypique vise à explorer de nouvelles formes d'exposition permettant d'articuler le reenactment et les représentations qu'il encadre en amont comme en aval. De ce corpus d'exposition émerge une première typologie des reenactments artistiques en art contemporain selon trois catégories qui ne sont pas du tout étanches. La première, les reenactments d'événements historiques ou de phénomènes culturels du passé, qu'ils soient lointains ou immédiats. Ici Mike Tribe qui fait rejouer les discours des militants de gauche durant la guerre du Vietnam. Donc on voit que l'art contemporain est un nouveau, je dirais, est un autre espace social de production des reenactments historiques. Deuxième type de reenactment, les reenactments d'œuvres performatives du passé selon une visée créative, c'est-à-dire en tant que nouvelle création. Et ici, une œuvre de Louis Jacob qui en fait rejoue une œuvre chorégraphique de 1948, mais la fait danser par un performeur queer. Donc, et ici, il ne s'agit pas de restituer la forme de l'œuvre chorégraphique, mais plutôt d'en activer certaines potentialités. Et enfin, les reenactments d'œuvres performatives du passé selon une perspective patrimoniale, c'est-à-dire comme nouveau moyen de transmission d'œuvres éphémères et performatives. Donc cela permet déjà de constater que dans le domaine de l'art contemporain, le reenactment est à la fois une pratique artistique et une pratique institutionnelle. Ça, c'est très important. De ces expositions, on peut faire encore certains constats. Premier constat, les reenactments artistiques entretiennent des liens étroits avec l'image. Je vous ai montré quasiment que des images, en tout cas beaucoup d'images. Plusieurs expositions ne présentent que des images, pour la plupart des captations des reenactments, c'est-à-dire qu'on privilégie leur devenir iconique, leur horizon iconique. Plus rarement, y sont adjointes des représentations médiatiques des événements passés à partir desquels ils s'élaborent. Ça, c'est Jeremy Diller, la bataille d'Ogreave, telle qu'elle est exposée à la Tate Modern à Londres, c'est-à-dire où on peut voir le film, mais il est mis au cœur d'une installation dans laquelle on a des archives phénoménales sur cet événement de l'histoire récente de l'Angleterre. Bien que plusieurs de ces expositions aient contribué de façon importante à une connaissance de l'histoire des reenactments et une compréhension de leurs enjeux théoriques, leur cadre conceptuel reste largement déterminé par des théories de l'art issus du postmodernisme centré sur l'image et les médias, parmi lesquels le spectre de la simulation généralisée de Jean Baudrillard et de cette disparition progressive de la référentialité dont il parle dans son livre. Le deuxième constat, le reenactment s'inscrit dans l'institution muséale selon un paradoxe. On refait un événement ou une œuvre pour en proposer une expérience incorporée, presque toujours collective et dialogique, mais celle-ci n'est donnée à voir la plupart du temps qu'à travers les images qu'elle génère et que le spectateur regarde seul, immobile, en silence, selon les protocoles traditionnels de l'espace de la galerie d'art. Ou encore, on inscrit le reenactment dans une programmation événementielle selon un régime spectaculaire et on le diffuse par le biais de captation présenté, comme je viens de le faire, selon une logique de l'avant et de l'après. Pour dépasser ce paradoxe, de nouvelles approches de l'exposition ont tout récemment émergé, articulant le refaire du reenactment avec les images qui l'encadrent en amont comme en aval et qui permettent des formes incorporées et dialogiques d'expérience et de participation. C'est le cas de la dernière exposition que j'ai montrée, intitulée « Moments ». Plusieurs questions émergent de ces constats. Comment, dans le champ des arts visuels, revaloriser les expériences et les savoirs incorporés pour aborder les reenactments artistiques sans pour autant nier l'horizon médiatique dans lequel ils se déploient ? Qu'est-ce que ces savoirs incorporés pourraient nous apprendre des images et du regard que nous posons sur elles ? Et inversement, qu'est-ce que les images peuvent nous apprendre des expériences corporelles, collectives, émotives, négociées que sont les reenactments ? Comment, dans le contexte des institutions de l'art contemporain, dans lesquelles la visualité et l'expertise restent hégémoniques, aménager des expériences des reenactments artistiques qui donnent une place suffisante au corps, au performatif, à la négociation, au débat collectif, autrement dit quand même à la portée politique du reenactment. Alors, à partir de textes théoriques, d'œuvres et d'expositions, je présenterai un échafaudage qui est en cours d'élaboration, c'est vraiment un chantier encore, qui tente de mieux articuler l'expérience de refaire et ses prolongements médiatiques en amont comme en aval. Et ma proposition donc est la suivante, c'est une tentative. Dans le domaine de l'art contemporain, le reenactment serait un processus de négociation des représentations historiques vivantes et médiatiques qui ne cherchent pas à établir un consensus, mais qui cherchent plutôt à établir du dialogue, une divergence de points de vue entre des acteurs impliqués et diversifiés. Deux idées sous-tendent cette proposition. La première, c'est que le reenactment procède, et je définirai ces termes, d'un répertoire de scénarii négociés entre des acteurs au sein d'un milieu de mémoire et non pas d'un lieu de mémoire. Et la deuxième proposition, il relèverait également de processus intermédiatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Des transferts d'un média à l'autre, d'une culture à l'autre, l'émergence de nouveaux médias, leur institutionnalisation, etc. Alors, dans la lignée de ces réflexions, des réflexions d'une théoricienne des performance studies qui s'appelle Diana Taylor et de plusieurs anthropologues et sociologues, je vais d'abord élaborer cette idée d'un répertoire négocié. Puis, le reenactment d'exposition coloniale que Guillermo Gomez Peña et Coco Fusco ont réalisé en 1992, qui s'intitule « Two Undiscovered Amerindians Visit the West » et sa documentation vidéographique, le film « The Couple in the Cage », me permettront d'analyser comment les processus intermédiatiques interviennent dans cette négociation des répertoires. Enfin, je traiterai plus rapidement de l'exposition React Feminism qui propose de réactiver des archives d'œuvres performatives féministes des années 60 et 70. Elles me permettront de montrer, ou en tout cas de proposer l'hypothèse suivante, que le répertoire peut devenir une approche curatoriale qui opère un glissement de la collection à conserver et à exposer au répertoire à rejouer et du musée comme lieu de mémoire au musée comme milieu de mémoire. Donc voilà. Alors je vais essayer brièvement et sans être trop assommante de développer cette idée. Qu'est-ce que c'est qu'un répertoire négocié qui est une notion qui vient des performance studies. Donc dans les sciences humaines et sociales, plusieurs penseurs ont emprunté aux arts vivants la notion de répertoire pour analyser les rôles et les comportements des individus en société ou pour étudier les modalités des actions collective. Bien qu'ayant une portée plus métaphorique que conceptuelle, le répertoire leur permet d'appréhender les phénomènes de reprise des comportements et des rôles sociaux, la façon dont les groupes ou les individus en société les reconduisent ou s'en écartent. Par exemple, juste un exemple, dans son anthropologie du citadin, Ulf Anners différencie l'inventaire des rôles offerts aux individus par leur communauté des répertoires qu'ils y jouent. Cette distinction vise à montrer que les citadins ne sont pas condamnés à choisir parmi des rôles disponibles, mais peuvent en créer de nouveaux. Ou encore, Charles Tilly avance la notion de répertoire d'action contestataire pour désigner les moyens que les acteurs mobilisent dans les conflits sociaux, l'occupation d'usines, la manifestation. À la fois déterminées et indéterminées, les formes protestataires sont en nombre limité, mais sans cesse réinventées et remotivées. Dans les sciences humaines et sociales, le répertoire, toujours issu d'une histoire ou d'une généalogie, permet d'insister sur l'idée de choix délibéré parmi un ensemble de possibilités et d'inventions de nouvelles modalités. Alors c'est dans cette même perspective que Diana Taylor, théoricienne des performance studies, rattache le reenactment au répertoire dans son ouvrage « The Archive and the Repertoire ». Taylor définit le répertoire comme un ensemble de gestes transmis par le corps à travers des pratiques vivantes selon un processus pleinement créatif de répétition et de différence. Elle l'oppose au régime de l'archive. Donc la différence, alors que l'archive procède d'une culture de l'écrit, dans laquelle nous recevons et transmettons les savoirs et les connaissances de manière indirecte, par l'intermédiaire de documents, le répertoire, lui, valorise les expressions incarnées, la transmission de savoirs et de pratiques incorporées. Il procède d'une mémoire dite directe, parce que les gens participent à la constitution, la transmission et la transformation des savoirs. Donc, tandis que l'archive stabilise et fixe, le répertoire, lui, conserve tout en transformant. En dépit de l'opposition de leurs registres et de leur logique, l'archive et le répertoire sont en constante interaction, insiste Diana Taylor. Leur relation n'est ni séquentielle, l'archive ne succède pas au répertoire, ni binaire, on ne peut pas les penser comme des couples opposés. Aussi regrette-t-elle que l'historiographie et la philosophie de l'histoire occidentale ont presque systématiquement dévalorisé le répertoire, le jugeant archaïque, l'assimilant à une mémoire dite ethnique ou à une conscience mythique, et je dirais aussi à un temps cyclique, dont on a parlé à quelques reprises. Pour briser ces préjugés et mieux appréhender le fonctionnement du répertoire et son interaction avec l'archive, elle propose le paradigme du scénario, donc on est vraiment dans un vocabulaire du théâtre, qu'elle forge à partir des notions de savoir social incorporé et inconscient d'Erwin Goffman et de comportement restauré de Richard Schechner, dont on avait parlé rapidement. Donc selon Goffman, l'individu en société possède un savoir social incorporé et inconscient, similaire au savoir scénique de l'acteur. Ses routines quotidiennes répètent des scénarios. Quant à Schechner, je vais très très vite, il affirme que, on l'a déjà dit, tout comportement humain est une recomposition de comportements précédents. Et cette restauration des comportements se fait selon des différentes modalités allant de la conservation, manipulation, transformation, réinvention d'un passé historiquement avéré ou fictif, situé ou non localisable. Alors, dans la lignée de ces deux auteurs, Taylor avance que les répertoires sont constitués d'un ensemble de scénarios qui se répètent à travers les siècles. Par exemple, le scénario de la découverte que l'on ne cesse de réactualiser, y compris maintenant dans les univers virtuels où il est très présent. Dotés de plasticité et de malléabilité, les scénarios invalident les notions d'origine, d'originalité, d'authenticité. Ils se reproduisent par le biais de multiples pratiques culturelles qui sont aussi bien vivantes que médiatisées et selon diverses modalités allant de l'imitation aux transformations, à la critique, à la résistance, aux appropriations, citations, parodies, subversions, etc. Ces jeux de répétition et de différence ou de répétition et de transformation sont issus de processus de négociation entre les acteurs au cours desquels se manifestent des rapports de force, des ajustements, des mises au point, des collaborations, des accords tacites, etc. Donc, un autre élément, outre cette dimension donc de négociation, un autre élément très important dans cette notion de répertoire, dans les performance studies, c'est qu'il permet également de recontextualiser les phénomènes de transmission dans des milieux de mémoire, c'est-à-dire des environnements dans lesquels les formes mémorielles sont étroitement intriquées à l'expérience et à la praxis. Donc, je montrerai maintenant, à partir d'une œuvre performative, je montrerai comment cette négociation des scénarios s'opère au cours d'un réenactment artistique et comment les processus intermédiatiques interfèrent. Alors, j'ai choisi cette œuvre, donc « Two Undiscovered Amerindians Visit the West », pour plusieurs raisons. Bien qu'elle soit désormais une œuvre canonique des études culturelles et des approches postcoloniales de l'art contemporain, cette performance et sa documentation vidéographique sont absentes des expositions et des écrits sur les réenactments artistiques. De plus, la remise en scène d'expositions coloniales d'êtres humains dont elle procède et les controverses virulentes qu'elle a provoquées résonnent avec plusieurs polémiques récentes, notamment celle d'Exhibit B, dont Martial nous parlera demain. Enfin, le tissage très serré entre la performance, ses sources iconographiques dans les archives coloniales et sa documentation vidéographique me semble assez exemplaire pour développer une compréhension justement de ces phénomènes intermédiatiques dans les réenactments artistiques. Alors j'aborderai cette œuvre en deux temps. D'abord la performance et le malentendu auquel elle va donner lieu, qui démontre l'existence de scénarios coloniaux connus, intériorisés et répétés encore à la fin du XXe siècle. Et dans un deuxième temps, j'aborderai la documentation vidéographique, le film qui en a été fait et qui consiste vraiment à une stratégie de retournement du regard vers les spectateurs et peut-être de possibilité de dépassement du malentendu qui est généré par la performance. Alors, un petit mot sur les artistes. D'origine cubaine, née à New York, Coco Fusco est une artiste, théoricienne et commissaire d'exposition qui travaille sur les questions des identités culturelles. Née au Mexique, installée en 1978 aux États-Unis, Gomez Peña est un artiste, théoricien et militant qui s'intéresse à la frontière comme zone d'hybridation culturelle. Fruit de leur collaboration, je vais raccourcir le titre, « Two Undiscovered » est réalisé à l'occasion du 500e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, dont les festivités, bien entendu, étaient plus que critiquées. La performance fut présentée entre 92 et 94 dans 10 villes différentes aux États-Unis, en Espagne, en Australie et en Argentine. Les lieux choisis pour la performance avaient tous un lien avec l'histoire de la colonisation. Ils étaient volontairement diversifiés afin d'interpeller des publics aux cultures et aux attentes différentes. Donc certains, c'était dans des espaces publics urbains ou encore dans des institutions dédiées à l'art ou encore dans des musées d'histoire naturelle et d'anthropologie. Alors, à chaque escale, les deux artistes passaient 3 jours enfermés dans une cage dorée. Ils étaient présentés au public comme d'authentiques guatinaous, donc que personne ne connaît, donc un vrai canular, des Amérindiens d'une île du Golfe du Mexique, tout juste découverte, parlant un dialecte inconnu des anthropologues. Des activités étaient proposées afin d'inciter les spectateurs à interagir avec eux. Pour une somme modique, Gomez Peña contait une histoire dans une langue totalement inventée pour l'occasion, tandis que Fusco dansait. Les visiteurs pouvaient se faire photographier avec les deux autochtones et emporter avec eux le Polaroid, témoin de leur expérience. Cette mise en scène réactivait, bien entendu, la période la plus violente des exhibitions d'êtres humains dans les foires, les freak shows et les expositions coloniales du XIXe siècle, alors que les intérêts mercantiles des impresarios rencontraient le désir de conquête des pays colonisateurs et les visées scientifiques des anthropologues engagés dans l'établissement d'une théorie de l'évolution et une hiérarchisation des races. Une convergence qui était aussi doublée par je dirais, une dimension fantasmatique très importante. Dans tout Undiscovered, les artistes cherchèrent à créer une certaine confusion quant au statut de ce qui était donné à voir. Dans la mesure du possible, la performance n'était pas annoncée à l'avance, elle n'était pas présentée comme une activité artistique. Vraiment, l'idée, c'était de susciter, de déstabiliser les visiteurs. Deux panneaux didactiques créaient encore davantage de confusion entre la fiction et l'histoire. L'un parodiant l'Encyclopédia Britannica, informé sur l'île et ses habitants dans un style très didactique, et l'autre établissait la liste d'une trentaine d'expositions d'êtres humains à travers l'histoire depuis le 15e siècle, avec de courtes descriptions qui rappelaient le caractère incroyablement violent de ces entreprises. La mise en scène joue d'une inauthenticité criante. Le décor et les costumes multiplient les références culturelles et hétéroclites, anachroniques, stéréotypées. On est vraiment dans le déguisement et dans la camelote des supermarchés pour le carnaval, c'est à peu près ça. Mais c'était aussi un clin d'œil amusé aux costumes de scène que les individus qui étaient montrés dans les foires et dans les expositions au XIXe siècle étaient forcés de porter. Les réactions du public, bien que très différentes selon les contextes, semblent procéder de deux logiques. La première relève d'une erreur de registre qui consiste à adopter l'attitude de la croyance au lieu de la feintise. Je vais expliquer. Et la deuxième résulte d'une feintise contrainte par des scénarii surdéterminants. Je vais expliquer aussi ce que j'entends par là. Alors, je reviens un petit peu sur un aspect du reenactment. Dans le reenactment, il y a quand même l'idée, et je reprends cette expression de Jean-Marie Schaeffer, de feintise ludique. C'est une composante très importante de tout reenactment, qu'il soit artistique ou non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la feintise ludique ? Schaeffer la résume par l'expression très simple des enfants, on le fait pour de faux. Hein ? Elle consiste à produire des leurres permettant l'immersion dans des univers de fiction. Il ne s'agit pas de tromper, d'induire en erreur, mais de mettre à la disposition de celui qui s'engage dans un espace fictionnel des amorces qui lui permettent d'adopter une attitude mentale particulière qui est celle du « comme si ». Alors, dans tout Undiscovered, à la surprise des artistes, une bonne partie du public opéra un glissement de la feintise à la croyance, c'est-à-dire à l'adhésion à des représentations tenues pour référentielles. Dans une feintise, on s'immerge, mais on n'est pas dans une quête du vrai et du faux. Or, c'est ce qui s'est passé. Sous la forme du « j'y crois » ou « je n'y crois pas », ces spectateurs s'engagèrent sur la voie de l'enquête, cherchant à indexer les différents éléments de la performance sur le réel, c'est-à-dire à en vérifier la véracité. Cette attitude prenait de multiples formes. Un bon nombre restait dubitatif. Parmi les crédules, certains acceptaient la situation alors que d'autres se révoltaient, et parfois très violemment. Un homme traduisit le récit que Gomez Peña contait dans une langue totalement inventée. Quelques-uns s'étonnèrent, par exemple, de l'absence de pilosité des jambes de Coco Fusco. On questionna les gardiens sur la couleur de la peau des deux performeurs qui étaient jugés trop clairs. En Australie, une femme en pleurs s'excusa de leur avoir volé leur terre. Je passe, mais il y a eu aussi des gestes d'une très grande agressivité, physique, etc. Donc, bien que très différentes, voire contradictoires dans leur forme et leur motivation, ces réactions relèvent toutes du registre de la croyance, c'est-à-dire qu'on reçoit la situation sur le « j'y crois, j'y crois pas ». Ce malentendu était bien entendu favorisé par le contexte institutionnel de la performance. Dans les musées, et tout particulièrement dans les musées d'histoire naturelle et d'anthropologie, les spectateurs étaient peu enclins à douter des informations qu'on leur donnait. Et dans les espaces publics, les panneaux didactiques jouèrent un peu le même rôle de garant. Aussi, les membres du public, des critiques, des journalistes considérèrent qu'ils avaient affaire à une tromperie et se sentirent abusés. Ils reprochèrent au musée d'avoir rompu le pacte de confiance implicite avec leur public. Par exemple, une journaliste du Washington Post, Pamela Somers, va parler en termes très violents de malhonnêteté des artistes, de trahison du public, d'escroquerie, de dissimulation, de discrédit dont l'institution muséale, en l'occurrence la Smithsonian, qui est une très grande institution, se faisait complice. Et certains directeurs de musées ont dû se désolidariser des artistes. Alors, une autre partie du public, c'est évidemment la plupart des gens se situent entre ces deux pôles de réception. Mais un autre pôle de réception, c'est les personnes qui ont pris le reenactment pour un reenactment et qui l'ont pris sur le registre correct de la fiction ludique et qui adoptèrent l'attitude de festive immersive, c'est-à-dire le faire comme si, propre au reenactment. Mais ils vont se confronter à d'autres difficultés. Acceptant de jouer le jeu des artistes, ils engagèrent dans les activités qui leur étaient proposées, notamment les activités de photographie payante ont connu un très grand succès. Les participants se prêtaient volontiers à des mimiques, à des pitreries. Certains voulaient donner eux-mêmes à manger aux performeurs à travers les barreaux. La participation aux activités proposées reléguait les spectateurs à des rôles extrêmement ingrats, souvent très embarrassants. Plusieurs manifestaient des signes évidents de gêne et de malaise, mais n'osaient pas partir. D'autres, au contraire, surenchérirent et adoptèrent des attitudes régressives, troublantes d'un point de vue éthique, d'un point de vue humain, parce qu'elles présupposaient que l'objectification des deux performeurs en cage était non seulement reconnue, mais acceptée. Ces attitudes, même lorsqu'elles étaient sous-tendues par de bonnes intentions, reconduisaient celles des publics, des foires, des cirques, des freak shows, des expositions coloniales du XIXe siècle. Un autre reenactment était en train de se jouer, non plus la réédition d'exhibitions d'êtres humains, mais la répétition du comportement de ceux qui les regardent. Malgré eux, les spectateurs démontraient qu'ils connaissaient ce que l'on attendait d'eux et qu'ils avaient intériorisé les attitudes propres au regard colonial, à travers les médias de l'image, les industries du tourisme, le cinéma, le divertissement, etc. Ils avaient certes recours à un répertoire d'actions et de scénarios, mais ils ne parvenaient pas à le réinventer et à le resignifier. Et ce sont plutôt les termes de cette impossibilité et de cette impasse qu'ils étaient amenés à négocier avec les spectateurs qui abordaient la performance selon le prisme de la croyance. Ceux qui savaient observèrent ceux qui ne savaient pas se faire berner ou encore, lorsqu'ils étaient mieux intentionnés, essayèrent d'entamer un dialogue miné par l'inéquité instaurée entre les interlocuteurs. Cette hiérarchie générait bien entendu des tensions, parfois très grandes, qui se retournèrent contre les musées, accusés cette fois-ci avec d'autres arguments de s'engager sur une voie régressive et de réactiver des comportements et des valeurs coloniales. Donc qu'ils soient reçus sur un régime incorrect de la croyance ou sur le régime correct de la feintise, le reenactment de l'exposition coloniale ne provoque aucune réponse adéquate. Il ne semble n'y avoir aucune issue et c'est dans cette impasse, à mon sens, que réside le sens de cette performance et sans doute, malgré tout, sa pertinence. Elle met en place une situation scandaleuse qui ne permet que des réponses indécentes. Elle soulève avec une certaine brutalité une question éthique fondamentale. Y a-t-il du non-réinactable, comme on dit qu'il y a de l'irreprésentable ? Peut-on rejouer des formes d'assujettissement sans faire naître des sentiments de honte et d'humiliation chez les réinacteurs, ce qui fut les cas, même si c'était les artistes eux-mêmes, et de malaise chez les spectateurs. Alors, le film est très important ici. En inscrivant la performance dans des chaînes de représentation transmédiatiques et transhistoriques, il donne à observer la répétition des scénarios à travers les époques, leur transmission entre les médias et entre les corps, les phénomènes d'incorporation des images par les corps et d'excorporation des corps vers les images. Ce faisant, il ouvre la possibilité d'une décolonisation du regard et des comportements. Alors, je m'explique, je vais aborder trois aspects du documentaire. Le recadrage de la performance vers les spectateurs, les résonances entre le passé et le présent, et enfin les processus d'identification entre performeurs et spectateurs, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Donc le film opère un retournement du regard. Il ne montre pas tant la performance, vous allez le voir un peu plus tard, que le regard que les spectateurs posent sur elle. Les plus longues séquences consistent en des interviews de spectateurs de divers groupes d'âge, genre, origine, niveau d'éducation, milieu scolaire, touristes, résidents de la ville. Fusco et Heredia ont opté pour le format traditionnel de l'entrevue, dans lequel la personne interviewée s'adresse à un interlocuteur hors champ qui est à côté ou derrière la caméra et ces questions sont coupées au montage. C'est un procédé extrêmement traditionnel mais qui transforme le dialogue en monologue et qui oblige la personne filmée à effectuer une auto-mise en scène, une mise en scène de soi. Et cet ajustement dans ce cas-ci est assez intéressant parce qu'il procède d'une double injonction. Se mettre en scène selon deux positions contradictoires, regardant et regardé, sujet et objet du spectacle. Donc il y a vraiment dans le film un retournement du dispositif de visualité. Deuxième élément, les résonances entre le passé et le présent. Un autre aspect important de ce film est l'hétérogénéité du matériel iconographique. Des captations en couleur réalisées au cours des différentes performances, des archives filmiques et photographiques de foires, de cirques, d'expositions coloniales, ainsi que des films de fiction reproduisant les stéréotypes coloniaux. Datant de la fin du 19e siècle à la moitié du 20e siècle, ces images fixes et en mouvement pour la plupart non identifiés, c'est très important, sont issus de fonds d'archives institutionnels. Le montage procède d'une logique analogique qui parvient à établir une proximité entre les univers représentés dans les images historiques et récentes. Le plus fréquent, par exemple, de ces procédés consiste à instaurer une unité sonore en dépit des changements d'époque sur le plan visuel. Par exemple, on va avoir une musique d'ambiance mondaine qui accompagne des scènes de filmées au Whitney Museum et c'est la même musique qu'un gala qui a lieu à Hollywood en 1930 dans lequel des acteurs africains étaient obligés de parader à moitié nus parmi les blancs en costume de soirée, etc. Ça revient tout le temps dans le film. Les fondus créés entre les images d'archives en noir et blanc et les polaroïdes pris de la performance contribuent également à donner cette impression d'une proximité temporelle. Un autre procédé vise à établir des continuités diégétiques entre ces historicités distinctes. Alors, ces analogies sur le plan formel, elles sont redoublées par des similitudes entre les performances passées et actuelles. Les scènes où les membres du public donnent à manger aux artistes sont entrecoupés d'images d'archives montrant des scènes similaires lors des foires et des expositions. Les mêmes résonances visuelles sont créées entre les spectateurs d'antan et ceux d'aujourd'hui. Par exemple, les visiteurs qui arrivent au Field Museum sont immédiatement suivis par l'entrée des visiteurs dans un freak show du 19e, début 20e siècle. Que faut-il comprendre de ces faisceaux d'analogies ? Ils permettent d'aborder la performance de Fusco et de Gomez Peña selon une perspective transhistorique et transmédiatique. Les scénarii que les uns et les autres jouent s'inscrivent dans une longue tradition, celle du colonialisme et la survivance de ces valeurs et des comportements qu'elles induisent à travers les divertissements de masse et les médias de l'image. L'entremêlement d'extraits de films documentaires et de films de fiction d'époques diverses, non identifiés, montée avec la captation de la performance, montre que cette transmission ne s'opère pas uniquement à travers les images, mais aussi à travers les corps qui les incorporent et qui les excorporent. Une dernière forme d'analogie consiste en des formes d'imitation et d'identification entre les performeurs et les spectateurs, et ce sont peut-être les plus troublantes. Plusieurs séquences montrent en effet des spectateurs mimant et imitant la gestuelle et le comportement des personnes exhibées. Par exemple, dans une foire du XIXe siècle, un être hirsute, mi-humain, mi-animal, en cage, entame un enchaînement de génuflexions et se voit aussitôt imité par plusieurs membres du public, la scène tournant au gag visuel propre au cinéma burlesque. Ce mimétisme de comportement amène l'idée que ces êtres venus d'ailleurs, exhibés comme des animaux, des monstres ou des curiosités exotiques, ne sont pas à percevoir uniquement à travers le prisme de la victime. En tant qu'acteurs engagés sous contrat, il ne faut pas l'oublier, par des impresarios et pleinement conscients du rôle qu'ils doivent jouer, ils ont la capacité de provoquer chez ceux et celles qui les regardent un processus d'identification et semble incontestablement savoir en jouer. C'est-à-dire que dans le film émergent des formes d'agentivité malgré tout. Ces séquences font apparaître un espace dans lequel les corps et les comportements s'hybrident, se contaminent, les identités se font hétérogènes et ambivalentes. The Couple in the Cage semble ouvrir une autre perspective sur l'exposition coloniale. Il ébranle les logiques binaires traditionnelles à travers laquelle on l'analyse, c'est-à-dire le couple observateur-observé, civilisé, primitif, soit autre, blanc-noir. Il l'aborde en tant qu'espace liminal, c'est-à-dire comme une scène de négociation entre les cultures. Mais plus encore, le film donne à penser les configurations psychologiques du colonialisme. Alors, l'intégration à des moments stratégiques du film de deux extraits d'archives filmiques dans lesquels on voit l'auteur William Seabrook parler de son souci d'authenticité et de vérité dans ses livres est particulièrement éclairant quant au sens à donner à ces analogies. Écrivain, journaliste et photographe, plus occasionnellement, Seabrook était proche des avant-gardes parisiennes et new-yorkaises, notamment les surréalistes. Il avait collaboré à la revue Document, il était proche de Léris et de Georges Bataille. Dans la tradition des explorateurs écrivains, il publia une série d'ouvrages qui relataient ses séjours dans des cultures autres. Exemple, en 1927, il fit paraître Adventures in Arabia. En 1929, The Magic Island, sur les pratiques vaudoues en Haïti, lu par un demi-million de lecteurs. En 1930, Jungle Ways, dont une partie est consacrée aux pratiques de cannibalisme en Côte d'Ivoire. Lors de son apparition dans le film, Seabrook évoque Jungle Ways et il joue d'une confusion entre démarche ethnographique et création littéraire. Il insiste sur son expérience immersive au cœur de la culture africaine, sur sa fascination pour une identité qui maintient sa distance et sa singularité à l'égard du colon français et sur l'objectivité de sa restitution littéraire. Comme le montre Gilliam Phillips, il y a dans la démarche de Seabrook une dialectique d'autodestruction et d'autoproduction qui consiste à se départir de soi pour incorporer l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans Jungle Ways, Seabrook raconte avoir participé à des pratiques cannibales, transgressant, bien entendu, un tabou occidental fondamental. Si le mythe du cannibale, poursuit Phillips, a très tôt servi à justifier la colonisation comme entreprise de civilisation du sauvage, il prit des formes plus ambivalentes dans le champ de la littérature et de l'art. Il constitua une métaphore de l'incorporation du corps de l'autre dans laquelle se joue une tension entre anxiété et désir, hein, la peur de consommer et d'ébranler ses propres limites et l'envie coupable de consommer et de devenir autre. Toute l'œuvre de Seabrook est travaillée par ce fantasme d'incorporer le corps noir authentique et primitif dans son corps blanc. Dans Adventures, il raconte s'être transformé en arabe. Dans Jungle Ways, il s'incarne en docteur sorcier africain et des villageois l'appellent l'homme noir qui a un visage blanc. Dans son autobiographie, il parle de ses racines noires, ça c'est assez amusant, héritées de sa grand-mère blanche qui avait été élevée par une nourrice noire, fille d'une esclave cubaine. Dans plusieurs récits, il s'attarde à ses relations sexuelles avec des femmes africaines ou haïtiennes. Donc l'apparition de Seabrook dans le film à deux moments stratégiques convoque une dimension plus psychologique de cette hybridation culturelle dans l'espace colonial. Sur ce film, je conclurai ainsi. Je pense que le film a permis de dépasser la polémique qui a entouré la performance et l'impasse dans laquelle cette dernière maintenait les spectateurs. Plusieurs éléments me semblent essentiels. Le retournement du regard vers les spectateurs, l'inscription dans des chaînes de représentation transhistoriques et transmédiatiques, le faire de l'exposition coloniale un espace d'hybridation culturelle, me semble particulièrement important. Si la performance instaure une situation conflictuelle, le film engage un processus de dialogue. Et à cet égard, il est important de préciser quels sont les usages de ce film. Ce film n'est pas considéré comme une œuvre, mais bien comme une documentation vidéographique qui n'est pas destinée à être exposée dans les salles des musées, mais il est pensé comme un outil, un embrayeur de discussion et de débat. Il a été projeté à maintes reprises dans des musées, des universités en présence des artistes lors de projections discussions et aux États-Unis, il est régulièrement utilisé dans les programmes d'études culturelles et de cours sur les théories postcoloniales. Ce processus de dialogue ne vise cependant pas le consensus. Et je dirais que peut-être il y a dans cette performance et dans son prolongement vidéographique quelque chose qui est de l'ordre d'une machine dissensuelle qui vise à briser les consensus au sens où en parle Jacques Rancière, hein, c'est-à-dire un consensus, l'accord entre sens et sens, pour ouvrir un dialogue et une négociation infinie dans lequel le sens ne se fixe jamais. Donc vraiment un moteur de dispute en quelque sorte et de discussion. Qu'en est-il maintenant du reenactment lorsqu'il devient une pratique institutionnelle avec une visée historiographique et patrimoniale? Le musée peut-il se positionner d'une manière plus heureuse que ce que l'on vient de voir? Qu'est-ce que les professionnels des institutions muséales ont appris de cette expérience ou de ces expériences? Dans cette dernière partie, donc, qui sera ma conclusion, j'aborderai le répertoire négocier en tant qu'approche muséale et curatoriale. C'est-à-dire qu'on voit émerger autour de ces pratiques de reenactment un glissement de la collection à conserver au répertoire à rejouer, du musée lieu de mémoire au musée milieu de mémoire. Et donc ici, je vais passer très rapidement, je veux vous montrer une exposition qui s'appelle React Feminism, qui a été organisée en deux temps. Il s'agit donc d'une exposition qui a une visée historiographique, qui cherche à écrire l'histoire de l'art de la performance des femmes et d'un art orienté sur la question du genre. Et donc, il va y avoir une première exposition d'une forme assez traditionnelle à Berlin, avec un volet archives, des archives photographiques et filmiques d'œuvres performatives. Ce volet va être augmenté, d'abord augmenté géographiquement pour aller chercher des pratiques artistiques performatives, ce qu'on appelle, entre guillemets, je ne fais pas le geste, mais plus périphériques, c'est-à-dire non pas des centres artistiques canoniques à partir desquels on écrit les histoires des arts. Donc, on va ouvrir à différents aires géographiques et on va faire voyager ces archives dans des caisses à travers de multiples pays. Donc, il y a dans cette exposition, d'une part, une réflexion d'ordre historiographique, comment écrire une histoire de la performance des femmes et comment utiliser le reenactment comme outil, je dirais, pour proposer de nouvelles formes d'écriture de l'histoire. Donc la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que la chronologie proposée était extrêmement arbitraire, c'est-à-dire si elle convenait très bien aux États-Unis, aux pays européens, elle ne convenait pas, par exemple, aux pays d'Amérique latine. Donc, on a décidé de ne pas aborder les choses de façon chronologique, mais de les aborder de façon thématique. Par exemple, disappearing subject, vous avez des gestes artistiques que l'on retrouve à différentes périodes dans différents pays qui se ressemblent, mais qui sont investis de significations très différentes. Par exemple, ici, Ana Mendieta, une artiste cubaine qui va recouvrir son corps de plumes blanches et une méditation sur, je dirais, la transformation de soi dans son rapport à l'exil. Ici, Françoise Janicot qui s'entoure la tête de ficelles, une méditation sur qu'est-ce que c'est qu'être femme, artiste, mère. Ici, une artiste afro-américaine qui va s'envelopper la tête de blanche en guise de contestation contre le racisme dont elle est victime dans la société américaine, mais surtout dans les milieux féministes de l'époque où en tant qu'artiste afro-américaine, elle se sent marginalisée. Et ici, on a Antonietta Sosa qui se fait véritablement momifier avec un mélange de papier toilette et de je ne sais quoi, pendant qu'on entend deux hommes parler de leur conception de l'art, d'accord ? Donc on voit ici des gestes, je dirais, très similaires, mais qui sont investis de significations différentes. Et on est vraiment dans cette idée d'un répertoire de gestes, d'accord, qui se répète, que l'on peut s'approprier et que l'on peut investir différemment. Et ce répertoire de gestes va être mis en circulation, alors comme vous voyez, dans des pays extrêmement différents, et chaque institution haute va recevoir ses archives et elle est invitée à faire ce qu'elle en veut avec, c'est-à-dire à les exposer, à les compléter avec des archives de sa propre ville, de son propre pays, de sa propre région, d'organiser des ateliers avec des étudiants, bref, de faire ce que chacun veut faire. Et les réponses vont être très différentes. Il va y avoir des expositions qui vont être assez critiquées parce qu'on va ramener l'archive vers le statut de l'œuvre d'art et donc d'un certain fétichisme. Ou encore, on va vraiment les utiliser comme des outils pour développer de nouvelles performances et de nouveaux reenactments. Et donc, certains lieux, comme la Fondation Tapies à Barcelone, ont refusé de faire aucune exposition. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'inviter une communauté à leur proposer des activités et à venir à prendre possession de l'espace et à travailler avec ces archives. Et donc, il y a toutes sortes de reenactments qui vont se créer au fur et à mesure. J'en montre juste un et je terminerai là-dessus. Ici, une œuvre de Faith Wilding, qui est une œuvre très emblématique du féminisme en art visuel. Donc, c'est l'artiste qui se berce et qui raconte, je dirais, tout ce qu'une femme attend depuis sa naissance jusqu'à son décès. Donc, c'est une œuvre qu'on trouve sur Internet. Le texte a été publié très tôt. C'est une œuvre canonique, en quelque sorte. Elle est invitée en 2009 à la reenacter. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va projeter l'œuvre qu'elle avait performé en 72. Et après ça, elle a recomposé un nouveau texte. Et dans ce nouveau texte, l'attente a une toute autre signification. Elle va parler de l'attente comme mode de résistance politique. Et elle va lui donner vraiment, en convoquant, toutes sortes de mouvements non violents mis de l'avant et initiés par des femmes. On va voir à Barcelone, deux jeunes artistes vont reprendre cette cette idée de l'attente, et elles vont faire des pompes, d'accord, et elles vont réciter le texte de Wilding, sauf qu'au bout d'une cinquantaine de pompes, ça devient extrêmement difficile, pas des pompes, des abdominaux, par contre, ça devient très difficile. Et ici, une artiste montréalaise qui a pris connaissance à travers la base de données de cette attente, et qui va, elle, faire une autre attente, qui est celle d'une non-productivité, hein, comme geste de résistance à cet impératif de la production dans lequel on vit aujourd'hui. Donc on voit ici comment une exposition génère des répertoires de gestes, des répertoires de scénarii que chacun peut s'approprier. Et à partir de là, on peut se demander quelle forme d'histoire on peut écrire à partir de ça. Et je dirais, ce qui m'intéresse, c'est que, et ce sera mon mot de conclusion qui n'en est pas une, que dans le reenactment, un art contemporain, finalement, devient un laboratoire historiographique. Et ça, je pense que c'est intéressant. Je ne sais pas quelles histoires peuvent sortir de là, quels récits peuvent sortir de là, mais en tout cas, il y a vraiment des formes de négociation, d'expérimentation, je dirais, qu'est-ce que ça veut dire construire un récit historique ou un récit de l'histoire de l'art. J'espère que c'était pas trop rapide. Voilà, merci beaucoup.